Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Le sens de la fête, un podcast de Christophe Payet pour Nick, la radio.
La nuit, tous les chats sont gris. A-t-on déjà énoncé une plus grosse bêtise ? À la lumière du stroboscope, les chats deviennent roses, bleus, verts, violets, arc-en-ciel. La nuit est un nuancier infini, une galerie de portraits, de singularités, un monde où les costumes anthracites tombent et où les personnalités explosent. Si la fête est toujours l'expression d'une culture ou d'une époque, elle a aussi quelque chose de profondément universel. Partir à la recherche du sens de la fête, c'est se demander en chemin ce qui nous lie en tant qu'humains. Dans cette troisième saison du podcast Le Sens de la Fête, en collaboration avec Villa Schweppes, on explore la teuf avec celles et ceux qui la font ou qui l'ont faite.
Bah moi j'étais juste parti du constat que bah déjà le clip Sandstorm c'était un clip qui était assez kitsch, assez drôle avec les lunettes de vitesse et surtout que c'est une musique qu'on n'arrivait pas à l'époque à décrire. On se disait ok c'est de la musique, c'est de la techno mais c'est en même temps c'est un peu dance mais en même temps c'est un peu kitschy. Du coup dans notre démarche de créer aussi la Darude c'est démocratiser et de montrer qu'est-ce que c'est la trance, qu'est-ce que c'est l'eurotrance. Et c'est un peu ce taboulé de référence que j'ai trouvé ça cool et au final ça fait beaucoup sens par rapport à ce qu'on fait maintenant.
Enfilez vos lunettes de vitesse, votre crop top et vos buffalo. Cette fête-là nous emmène faire un voyage dans le temps. Une époque d'insouciance, de joie de vivre et de surconsommation. Une ère fluo où Loana était une icône et Benjamin Castaldi, le grand ordonnateur télévisuel. Lancé en 2018 par Karl et Romaric, alias Diclar et DJ Kwame, les soirées de la Darude ne sont pas de simples teufs, mais un hommage vivant et vibrant à ces temps bénis du kitsch. Vous avez dit Darude, comme le nom du DJ finlandais qui a signé ce tube Sunstorm au clip suranné entre Matrix du pauvre et rétro-futurisme en pantacourt. La Darude, c'est une bonne dose d'eurodance dégoulinante, de trance et de happy hardcore, des tubes commerciaux qui traversent le dancefloor à toute berzingue, une soirée joyeuse qui revendique le mauvais goût d'un temps passé pour guérir les plaies de notre temps présent. On s'est retrouvé à Grande Contrôle, dans le 12e arrondissement de Paris, dans une ambiance quasi festive, entouré par une foule en bifort, et on a exploré ensemble le sens de la fête kitsch de la Darude. Karl, Romaric, bonjour.
Salut, salut.
Salut, salut.
La dernière fois que vous avez fait la fête, c'était quand ?
Ce week-end ? C'était pour la Darude. C'était la rentrée de la Darude à Paris pour l'année 2023. C'était la machine du Moulin Rouge.
C'était bien.
C'était énorme.
C'était enfin, rock'n'roll, ouais.
Voilà. C'est quoi une soirée rock'n'roll ?
Bah, grosse ambiance, des DJ en folie, un lieu incroyable et
un public énergique.
Tonique. Quand est-ce que vous considérez que vous faites la fête ? C'est quoi pour vous faire la fête ? Ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est forcément danser ? Est-ce que c'est retrouver des potes ? Quand est-ce que vous vous dites « Ok, là c'est la fête ?»
Il peut y avoir plein de facteurs. Après, généralement, quand on fait la fête, il y a de la musique. Puis, on se retrouve entre potes.
C'est ça, c'est un moment de réjouissance collective autour d'un lieu qui nous rappelle des souvenirs et où on se sent bien. Ça peut être dans un appart, ça peut être dans un club, ça peut être n'importe où, dans un bar, ou au métro même.
Dans le métro ?
Bah ouais, je sais pas.
Bon, on a déjà fait la fête dans le métro.
On a déjà fait la fête dans le métro, c'est vrai ?
Ouais,
c'est ouais. Non mais c'est...
Le genre d'apéro, tu vois.
Ouais, en fait, voilà, c'est ce genre de d'apéro où tu te dis, vas-y, on doit aller à tel endroit, et en fait, enfin... tu restes dans le métro parler avec tes potes, en fait tu restes 3 heures et t'es là en mode bon bah on fait quoi après. Parce qu'en fait t'as tellement
monte
de tease.
Enceinte, on a qui monte.
Non mais ouais, c'est ça, ouais, t'as tellement de tease, t'as ta petite enceinte, tu vois, t'es là en mode ouais. Et en fait bah, tu bouges pas et les métros ils font passer et après à la fin t'es là en mode bon bah.
J'ai raté la station, putain.
Ouais, voilà,
merde.
Même au lieu de rater la station, t'es là, mais putain, en fait on a même pas bougé les gars.
Ouais, vous êtes genre sur le quai avec du son.
C'est ça.
Et ouais. C'est la teuf.
C'est ça, ça nous arrivait beaucoup à la fac.
C'est vrai?
C'est ça.
Ouais. Ouais. Ou même parfois on rencontrait des gens comme ça, bam, sur le quai, et puis allez hop.
Ouais.
Et des fois on les embarquait avec nous en soirée.
C'est vrai ça.
C'est important pour vous la fête du coup?
Totalement, ouais. Ouais.
Ouais, ouais.
Ça l'a toujours été?
Oui et non. Mais disons que, par exemple, je dirais surtout au lycée, en fait, la fête, pour moi, c'était un truc un peu utopique. C'est-à-dire que tu vas en fait tous les samedis avec tes potes, tu fais des soirées à part et tout, mais en fait, t'as envie que ça ressemble à tel moment que t'as vu dans tel film.
On a la journée de demain pour tout remettre en ordre.
Et ça, tu y as pensé? Et si mes parents voient ça?
Personne ne verra jamais ce film sauf nous, je te le promets.
Vous savez, cette soirée entre gamins à Pasadena, vous avez vu les images?
T'as envie vraiment que ça soit quelque chose qui correspond à ce que t'as vu dans des films, dans des séries et tout. Et parfois, ça ressemble pas du tout. Enfin, très souvent, ça ressemble pas du tout. Et après, ça s'est présenté à moi. Je me suis dit vraiment, au moment où j'ai compris que c'était important, c'est quand on est arrivé à la fac, qu'on s'est rencontré avec Karl et qu'on voyait que, par exemple, nos cours nous plaisaient pas. En fait, nos cours nous plaisaient pas. Du coup, en fait, t'arrives le lundi, t'attends que la fête. Voilà, tu dis, je fais quoi le prochain week-end? Genre lundi, t'es en cours, t'es déjà en train de dire, bah, putain, je fais quoi? À midi, tu vas voir tes potes, t'es là en mode, tu prépares déjà ton
c'est
planning.
Tellement vrai.
Lundi midi, tu prépares déjà ton planning pour le week-end. Et là, ouais.
Et en plus, le week-end, il commence quand même assez tôt.
Il commençait dès le jeudi.
Dès le jeudi, en fait.
Donc là, j'ai compris que c'était vraiment important. Et après, les opportunités se sont présentées et maintenant, aujourd'hui, c'est notre métier, quoi.
Ouais, c'est notre boulot. Ouais.
Ça, vous avez imaginé un jour que ça deviendrait votre métier de faire la fête ou en tout cas d'organiser
en fait,
des fêtes?
On était en fac d'histoire, on avait tous le même rêve, c'était soit de devenir journaliste ou soit je sais pas, faire de la recherche, enfin quelque chose d'assez social et culturel, et au final on fait quelque chose de culturel mais dans un autre domaine.
Je pense que d'abord au début c'était plus un loisir de se dire on fait la fête. Après il y a eu plusieurs étapes. D'abord au début il y a eu l'étape en mode je vais en club, ah j'ai envie de mixer. Et après il y a eu l'étape de ah je sais mixer, ah j'ai envie de mixer dans un club qui me plaît. Et après il y a le truc de se dire bah tiens en fait j'ai envie de faire vivre ce club, j'ai envie de faire des soirées. Et step by step en fait je fais des trucs à côté, je fais mes études, je fais des stages ou j'ai des petits jobs alimentaires, mais en fait ce qui me plaît c'est vraiment de faire des soirées. Donc du coup après ça s'est présenté à nous comme ça, mais vraiment step by step quoi.
Ouais. Après à la base on est vraiment des gros diggers. On est des gros diggers de son, on écoutait quand même plein de styles musicaux et au final que ça soit dans un cadre de concert ou dans le clubbing, on avait toujours cette volonté de juste s'amuser et de kiffer les artistes déjà et ensuite l'ambiance et
donc ça arrivait par la musique
et on s'est pas
mis,
quoi.
Ouais.
Qu'est-ce que vous recherchez dans la fête? Qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans? Qu'est-ce que vous allez chercher?
Il y a un état de, je dirais, de bonheur perpétuel. Le fait de se retrouver avec des amis, de kiffer ensemble. En fait, t'as envie que ce moment-là, il dure tout le temps.
Tout le temps, ouais. On est dans une sorte de réalité édulcorée où tout est magique, tout est beau, tout est magnifique parce que tu te retrouves avec tes amis, t'écoutes des super DJ, un bon son et le cadre est parfait.
Parfois même la musique ne te plaît pas forcément, donc du coup en fait tu vas te rattacher à d'autres trucs. Et des fois, enfin nous on a beaucoup été au social quand on était à la fac, et le truc c'est que on y allait n'importe quel jour, on regardait même plus la programmation à la fin et on se disait même si la musique est nulle je vais rencontrer des gens cool.
C'est pas faux.
Donc voilà, il y avait vraiment ce truc où on avait vraiment envie juste d'être dans un milieu qui nous plaît, avec des gens intéressants à rencontrer, et du coup la fête se rattache à ça quoi.
Alors on va revenir un peu aux sources pour comprendre comment on en arrive là, comment vous êtes arrivé là. Chacun, Karl, Romaric, vous pouvez me raconter dans quel milieu vous avez grandi et est-ce que on faisait la fête chez vous par exemple quand vous étiez petit? Karl.
Moi je viens de Saint-Denis, donc plutôt un milieu populaire, et la fête était quand même assez présente, que ça soit avec les grandes cités, ou dans le cadre familial, avec les mariages, ou à l'église, ce qui est mon cas.
À l'église ?
Ouais, ouais.
C'était la fête à l'église ?
C'était quand même assez la fête,
ouais. C'est-à-dire ?
Bah, c'est toujours des moments un peu joyeux, ou des moments de communion avec des personnes qui...
Qui chantent,
après, qui... Ouais, ça chante.
Après, je pense que, voilà, pour faire un peu la différence, pour que chacun s'y retrouve, il y a le catholicisme, donc qu'on connaît tous ici, et après, il y a les courants évangélistes. Et là, les courants évangélistes, c'est différent. Donc,
ouais,
donc
là, en l'occurrence, toi, c'était l'église évangéliste.
Ouais, c'est,
et
ouais,
c'est, pour
ça.
Que, c'est pour ça que c'était la fête. Non, c'est parce que l'église catholique, c'est pas trop la
fête. On va pas mentir.
Oui, 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 oui.
Tu chiales quand il
donc,
va.
Voilà, c'est ça, c'est cadre privé, cadre public. Et donc, c'était assez omniprésent. Parce que bah, forcément, quand la vie est un peu plus difficile au niveau économique, bah, les seuls moments où, de réjouissance, c'est les moments où tu passes avec tes potes. Ta famille.
Ouais, donc vraiment déjà dès tout petit, tu baignais dans une ambiance festive où il y avait tout le temps de la musique.
Totalement.
À l'église évangéliste. tu disais avec les potes du quartier.
Les potes
tout,
du quartier, c'était quoi, les mariages.
Raconte-nous un peu, c'était quoi les soirées. Non, vraiment, vous écoutiez quoi faisait...
Bah, forcément, à Saint-Denis, on a une grosse culture urbaine musicale, donc c'est du rap. C'est, après, moi, j'avais beaucoup baigné dans plusieurs styles musicaux. Je traînais avec les skaters, je traînais avec les babos. Donc, ça dépend des cadres. Et ensuite, à côté, à Saint-Denis, il y a la fête de l'UMA. Donc, c'était aussi un beau cadre pour faire la fête. T'avais le 6B aussi. Et il y avait des lieux pour faire la fête.
Et dans la famille, tes parents, ils faisaient la fête, ils écoutaient de la musique
Ouais, ma mère, elle chantait. Ouais, mon oncle est guitariste. Enfin, t'as plein de liens qui font que la fête est quand même importante pour moi.
Toi, Romaric ?
Moi, j'ai grandi à Meudon-la-Forêt, dans le 92. C'est le quartier populaire de Meudon. Dans ma famille, on est originaire de Côte d'Ivoire, enfin comme Karl.
Comme moi.
Voilà. Et c'est un pays qui est connu même aujourd'hui pour beaucoup faire la fête. C'est-à-dire
ouais.
que moi, ma mère, on vient d'un milieu très, 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 très précaire. Mais le truc, c'est que ma mère, elle trouvait toujours un prétexte pour faire la fête. Donc voilà, ça allait être nos anniversaires, ça allait être nos anniversaires et demi, ça allait être le baptême, ça allait être la première communion. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait un truc, c'était hop, on invite tout le quartier. On invite tout le quartier, on invite des tantes, des sœurs et tout.
De fou, de fou.
Depuis que je suis tout petit, on a vraiment grandi là-dedans. Et ça fait que je me rappelle qu'on est arrivé au collège. En fait, d'abord au début, j'étais à Meudon. Et après, on est arrivé à Meudon-la-Forêt. Quand j'étais au collège, je me rappelle, je connaissais pas grand monde. Et le truc, c'est que moi et mes sœurs, à chaque fois, on disait aux gens du collège, à la fin, quand ça finissait, on leur disait, venez chez nous. Et ça fait que t'avais ce truc de troisième mi-temps, genre juste après les cours, tout le monde se retrouvait chez nous. Donc il y avait tous mes potes, il y avait tous les potes de mes sœurs, et c'était continuellement tous les jours, quoi. Et d'abord au début, au collège, en 6e, 5e, ça terminait à 20h. À 20h, tout le monde devait rentrer chez soi. Après 4e, 3e, là tu commences à atteindre des trucs où ça va être jusqu'à 23h. Ça va être les potes ils dorment à la maison. Donc moi je me retrouve avec 6 potes qui dorment dans le salon. Mes sœurs, pareil, elles ont des potes qui dorment dans leur lit superposé,
la base.
Ouais, voilà, ouais. Et ça fait que ouais, le matin, on se retrouve tous, on est 14 en train de prendre le petit déj chez moi, genre dans notre petit F3, mais il y avait toujours ce truc de partage, de fête et tout, quoi.
C'est quoi votre tout premier souvenir de fête ?
Alors là, j'en ai un. Je crois que je devais avoir peut-être 4 ans, je crois. Et vraiment, non, en fait, je m'en rappelle parce que justement à Meudon, on habitait dans un truc un peu claqué où vraiment, genre un truc un peu claqué où je me rappelle en fait que mon grand frère venait avec tous ses potes squatter toutes les fêtes qu'il y avait, que ce soit les fêtes de ma mère, que ce soit les anniversaires. Et là, je pense, je sais pas, ça devait être l'anniversaire de ma petite sœur ou de moi, je sais plus. Et je me rappelle en plus que, tu sais, ils aimaient bien mettre de la musique et ils aimaient bien me faire « Ouais, tu danses bien, toi. Tu danses bien, Michael Jackson. » Donc du coup, je me rappelle de ce moment où ils ont mis du Michael Jackson et je dansais comme ça et tout. Et je me rappelle de mon frère qui est arrivé par la fenêtre avec ses potes en mode ils avaient du whisky et tout. C'était en mode « Ouais !» Et je me rappelle de ça, genre j'avais 4 ans, quoi.
Ah ouais.
Ouais. Je me rappelle en plus qu'ils avaient mis à un moment I like to move it, move it. Premier morceau de Eurodance.
Le placement produit.
Ils avaient mis ça, je me rappelle. Ouais. « tout le monde était à fond, mais genre là j'ai des visions. Tout le monde était à fond, genre ça whinait et tout. Je me disais, ouais, je suis où là?
Avant-gardiste.
Ah, mais je te jure, non, mais ils venaient avec leur copine, mon frère et tout. Ah, ouais, et ses potes, c'était n'importe quoi.
La Darude, c'était déjà là en fait. C'est peut-être ce souvenir-là inconsciemment.
Mine toujours.
C'est ça. Bon, on regardait beaucoup le Hit Machine, moi, avec mes frères. On a beaucoup baigné dans cet univers dance au final. C'était un peu le rendez-vous hebdomadaire. C'était tous les samedis, il me semble, à 11h. Ouais, avec mes frères, on faisait les chorés, on regardait les Tubi Fouille, on était trois en plus, ça tombe bien.
Partir un jour sans retour, effacer notre amour.
Peut-être l'autre souvenir, c'est 98. Je me souviens, je pense que j'étais à la maternelle ou à l'école élémentaire. C'était très chaleureux, enfin, il y avait une atmosphère très chaleureuse, c'était assez ensoleillé et tout le monde faisait la fête.
Pour la Coupe du Monde,
ouais, c'est
pour
ça.
La victoire, ouais.
Ouais, ouais. Il y avait de beaux souvenirs aussi de cette époque-là.
Moi, je me souviens que j'avais pleuré puisque j'étais pour le Brésil.
Mais non.
À partir de quand vous avez commencé à aller en club?
Alors moi, le premier club, c'était le Mix Club en 2007. Et je m'étais fait recal. C'était pendant l'art tectonique. Et en fait, j'ai suivi mes potes parce que mes potes étaient vraiment à fond dans la tectonique et tout.
Pas
moi,
toi.
J'étais là maintenant, j'aimais vraiment pas. Et du coup, je les ai follow et je me rappelle qu'ils avaient fait, on avait fait 4 groupes et du coup, ils m'ont mis vraiment avec le bolos du groupe, tu vois. En fait, tu peux dire, ouais, il nous a dit qu'il voulait pas rentrer et tout, ils m'ont mis vraiment avec le bolos du groupe. Donc, du coup, je me suis fait recal. Après, bon, j'ai pris ma revanche et je suis retourné et tout. Après, ouais, le premier club qui m'a vraiment plu, je me suis dit, waouh, là, je suis à ma place, bah, c'était le Social Club, mais c'était en 2012.
Social, ouais. Moi, j'ai très peu de souvenirs de... Je pense qu'à Saint-Denis, on n'était pas trop... C'était plus concert, c'était plus les lives. Pour le coup, les moments de fête, enfin, en tout cas, clubbing, lumière tamisée, voilà. À la nuit 13.
Ouais, à Saint-Denis, ouais.
Ouais. C'était un mélange de reggae, forcément. Mélange de reggae, ska.
Quand est-ce que tu découvres le club? Beaucoup plus tard?
Bah, au final, je pense que c'est en arrivant à la fac, c'est ça. Hein, c'est en arrivant à la fac, je découvre le Social Club comme Romaric et là, un gros coup de cœur. Ça changeait vraiment du milieu auquel j'étais de base. Et ouais, je me sentais bien et forcément, j'ai des souvenirs qui sont encore dans ma tête. Quoi.
Qu'est-ce qui vous a parlé au Social Club? Qu'est-ce qui changeait en fait?
Enfin, y a quelque chose qui m'a attiré tout simplement, c'est-à-dire que je me suis vraiment mis à écouter de la musique électro et que petit à petit, je découvre SoundCloud et à cette époque-là, SoundCloud c'était vraiment the platform quoi. Donc je découvre SoundCloud, je découvre plein d'artistes et je me dis waouh, ouais, trop bien, j'aimerais trop les voir en live, est-ce qu'ils font du live, qu'ils mixent, c'est quoi le délire? Et en fait, à chaque fois, je voyais que sur SoundCloud, il marquait les dates où il passait. Et tous les artistes que je voyais, à chaque fois dans leur date, ils mettaient Social Club. Donc, du coup, je me disais, mais ce truc-là revient tout le temps. Faut que j'y aille. Et après, au fur et à mesure d'y revenir, parce que ils faisaient les mardis, les mercredis, c'était gratuit.
Donc, ouais, en plus, on avait la chance, quand même, durant cette période-là, 2012-2013, c'était vraiment la nouvelle génération de la French Touch, Headbanger.
Avec Roche Music.
Avec Roche Music, on avait la chance quand même de voir des artistes, des gros noms à moindre coût.
Enfin, c'était les débuts de Bromance aussi.
On payait quoi, 5 euros pour les voir. Donc du coup, c'était assez drôle de voir ces artistes-là qu'on voit maintenant, qui sont énormes. Et c'était quand même une période phare de ma vie, en tout cas.
Le social, petit à petit, c'est... Comme c'est gratuit du mardi au jeudi, on n'était pas très loin. Bon, on était à Clignancourt à la fac. Le social, c'était à Grand Boulevard. En fait, c'est quasiment sur la même ligne.
La même ligne, ouais. C'est le social club. C'était 142 rue Montmartre dans le 2e arrondissement.
C'est ça, ouais. Et du coup, ça fait que qu'est-ce qui se passait? On sortait de cours, on allait boire un coup, et après, on était là, mais on fait quoi? En fait, c'était ouvert tous les jours, donc on se dit, bon, viens, on y va, quoi. Et ça fait que petit à petit, de la musique, on a commencé à s'intéresser aux gens. Et surtout avoir un affect pour le lieu quoi. Donc on se retrouvait toujours là-bas, on se paumait toujours là-bas. Ou sinon des fois les gens leur disaient quoi, tu connais pas le Social Club? Bah attends, je t'emmène et tout. Et ça fait qu'on ramassait des gens dans les bars, même des gens de la fac comme ça qui nous disaient ouais, vous sortez tout le temps, vous sortez où? Au Social Club, tu viens avec nous. Ça fait que ouais, jusqu'à 2015-2016, on y allait régulièrement quoi. Et puis il y a des artistes qu'on kiffait et qui maintenant travaillent avec nous, comme Panthéros du Club Cheval, qu'on allait voir là-bas avec le Club Cheval. On était devant, on disait waouh, c'est magnifique et tout.
Mais grave.
Et maintenant on bosse avec lui, donc c'est trop cool.
Tout a commencé là-bas.
Ouais,
c'est ça.
comment on se fait le déclic de dire voilà, nous on va passer de l'autre côté, mais on va faire nos soirées, on va commencer à mixer, on va... C'est quoi le déclic? Comment vous passez de l'autre côté?
Ça arrivait tout bêtement à force de sortir, de voir les DJ et se dire mais j'aimerais trop être à cet endroit-là. Et en plus à cette époque-là, il y a vraiment plein de jeunes qui sortaient et qui allaient au social et qui disaient mon rêve, ça serait de mixer au social.
Ouais.
Donc
ouais,
voilà, on avait vraiment ce rêve-là et ouais. Et quand on a rencontré César de Roche Music, qui était un de nos idoles, enfin même le label et tout. On était trop fans et le mec trop sympa, il nous fait, parce qu'il nous voyait toujours à chaque soirée, il nous disait, mais le mec, vous dansez toujours devant.
De fou avec nos lunettes de vitesse là. Voilà.
C'est pas les lunettes de vitesse, c'est les lunettes rondes.
Ouais, les lunettes rondes,
c'est années 90. Déjà des lunettes de vitesse.
Non,
c'était des lunettes rondes, un peu années 90.
Des grosses casquettes à l'époque. Du coup, voilà, c'était les 1 an de Roche Music, on le voit sur la terrasse, on se dit, on va lui parler ou pas. Et là,
on avait chaud.
Voilà, on arrive, on lui fait, ouais, mais on kiffe trop ce que tu fais. En fait, le mec trop détente et tout, et commence à parler avec nous tout et n'importe quoi, on rigole, on boit des coups et il nous fait les gars mais vous mixez, vous avez un projet et tout, on lui fait ouais on mixe un peu et il nous fait bah en gros moi j'ai une date là en octobre où je sais pas qui mettre donc si vous avez un projet je sais pas envoyez moi des mix ou quelque chose et puis on verra et on lui a envoyé des mix et ça s'est fait comme ça, il a fait bah ok les gars je vous book. Et à partir de là, on s'est dit faut qu'on crée un projet vraiment un truc sérieux qui va durer parce que bah c'est cool d'avoir une date mais on a pour objectif de mixer au social ou pas. Donc voilà, du coup, on s'est dit, vas-y, on va créer un projet, un collectif avec deux personnes qui étaient avec nous, deux amis, Hugo et Emilien. Et on avait créé à cette époque le collectif Bel Air Sounds. C'est par là que ça a commencé notre entrée dans le monde de la nuit.
Et l'objectif, vous l'avez rempli? Vous avez mixé au social?
Ouais.
Ouais. Ouais, ouais. C'était quand et ça faisait quoi, première fois au social?
Tu en as date, toi, exactement?
Bien sûr.
Ah ouais, putain, ouais, j'ai chaud, il y a une mémoire de fou.
J'ai tout, parce que c'était moi qui mettais les événements sur Facebook, du coup, je me rappelle. C'était le 2 avril 2015.
Waouh.
En fait, je me souviens que j'avais cassé les couilles au directeur artistique du social à l'époque en lui disant Faut que tu nous fasses passer et tout, c'est trop cool, on a un projet trop cool et tout. Pendant 7 mois, j'avais cassé les couilles. Et là, à un moment, il nous fait quoi? Il nous fait le social va réouvrir le jeudi. Il réouvre la semaine prochaine. Je sais pas qui mettre. Vous êtes chaud? On avait une semaine pour faire la soirée. On s'est dit it's now or never.
Bien sûr.
Toi, on est chaud. Et du coup, bah, là, on s'est motivé. On a fait un visuel de ouf. On a motivé tous nos potes. C'était le petit social, parce qu'il y avait le petit social et le gros social. Et le petit social, genre, la capacité, c'était 400. On a fait 475 personnes.
Ouais, on a ramené toute la fac.
Ouais. Ouais. Donc, c'était incroyable. Donc, à partir de là, après, ils nous ont filé le gros social le mois d'après. Là, il y avait une émeute devant le club. C'est n'importe quoi, il y avait même des gens qui étaient venus, des mecs de cité du 93 qui étaient venus, ils se sont dit vas-y on s'attend là, on règle nos comptes quoi. C'était n'importe quoi. Donc c'était en 2015-2016, c'était les dernières soirées du social et c'est les soirées qui blindaient le plus, c'était les soirées Bel Air.
Même à cette époque on combinait quand même dans nos covers le lifestyle un peu 90.
Ouais, c'était fashion.
C'était assez fashion quand même.
Toujours été fashion.
C'était quoi l'ambiance Bel Air, l'esprit Bel Air?
Assez friendly.
Ouais.
Assez chaleureux.
Ouais, les événements s'appelaient Bel Air and Friends.
Donc forcément Bel Air, ça fait référence un peu au
Prince de Bel Air.
Prince de Bel Air, aux séries, la bonne humeur, forcément. Donc forcément les gens s'y retrouvaient.
Et c'est vrai qu'on voit, on communiquait bah, déjà à l'époque sur nos événements en mode viens, invite tes amis et tout, tu vas kiffer. Ton pote qui kiffe le hip-hop, bah, il en aura. Parce que c'était des événements hybrides en fait, il y avait tout genre de musique dedans. Et donc du coup, c'était ouais, ton pote qui kiffe le hip-hop, bah, il en aura. Ton pote qui kiffe la techno, il en aura. Ton pote qui kiffe la pro vite, il en aura. La house aussi, tu vois.
La jersey
donc,
aussi.
Donc voilà, ramène tous tes potes, tu vas voir, c'est frais quoi. Et du coup, ouais, c'était un melting pot de vraiment plein d'univers différents quoi. Et en fait, c'était à l'image de Karl et moi qui à cette époque traînaient vraiment avec des gens de tout milieu quoi.
Et ça, ce côté mélanger les gens dans une même soirée,
ouais.
J'ai l'impression que c'est pas forcément quelque chose, en tout cas à l'époque, qui était très courant à Paris, que voilà, c'est très segmenté, quoi. Tu vas dans les soirées house, tu vas dans les soirées techno. Pourquoi c'est si original et, ou est-ce que c'est compliqué d'organiser des soirées multigenres à Paris?
Bah, y a toujours un plafond de verre hein, dans ce genre de configuration multigenre parce que... pour vendre un projet à un promoteur ou des lieux, forcément, ils aiment avoir une image précise du type de population qu'il y a. C'est plus facile, je pense, lorsqu'on crée un événement avec un genre musical, de pouvoir communiquer et de cibler certaines populations.
Enfin, moi, je dirais tout simplement que les événements en France sont drivés par la musique. C'est-à-dire que si tu vas dans un événement techno, tu vas entendre de la techno. Si tu vas dans un événement hip-hop, tu vas entendre du hip-hop. Et en fait, nous, on a pris le contre-pied On s'est dit plutôt, on va ramener des gens cool à une soirée. Et justement, on va leur faire connaître des genres. Et aussi, bah, s'ils n'aiment pas la musique, bah, ils peuvent rencontrer des gens cool. Il y avait ce qu'on appelait les Bel Air Love Stories, juste après les événements, surtout dans notre fac, où on voyait des gens improbables se pécho. On disait, mais non, machin, la pécho, mais machin. Mais what the... Et ouais, ça se passait tout le temps au Bel Air, quoi. C'était tellement drôle, quoi. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus récurrent de faire des événements multigenres où tu vas entendre 3-4 types de musique.
Vous pensez que c'est spécifique à la France, ce truc de case musicale comme ça en soirée ?
Non, c'est pas spécifique à la France. On va juste à Berlin, voilà quoi, on le voit.
Par exemple, l'Angleterre a beaucoup plus une culture de mélanger les genres.
C'est ouais, exactement ça, ouais, c'est, ouais, très, bien sûr. C'est très anglais. Et en fait, nous, on était vachement influencés par la culture anglaise à ce moment-là, ouais. Parce qu'on avait comme, d'abord au début, Bel Air, c'était un collectif qui faisait de la UK. Et après, on a commencé à diversifier parce qu'en écoutant sur SoundCloud, tu écoutes de la UK, tu tombes facilement sur de la club musique, de la musique hybride. Donc, du coup, dans la club musique, tu peux avoir des beats hip-hop, tu peux avoir de la techno, tu peux avoir de l'afrobeat, en fait, tu peux avoir tout.
Alors, comment Bel Air devient la Darude ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Plein de choses. Plein de choses, mais en gros, il y a eu un projet où on a perdu énormément d'argent parce qu'on avait vraiment misé sur le line-up. Alors que le public s'en foutait du line-up. Donc du coup, déjà, on remarque ce truc-là. On se dit, en fait, les gens venaient à la soirée Bel Air parce que c'était la soirée Bel Air et que là, on a misé sur un truc de ouf.
Et qu'il y avait une ambiance quand même singulière aussi.
C'est ça, ouais. En fait, on a misé sur ça, on a misé sur les artistes. On a misé toute la com sur les artistes alors que le public s'en battait les couilles. C'est en fin 2017, on se pose et on se dit, déjà, la musiques qui passaient sous Bel Air, ça nous disait plus rien. Et
ouais, il y avait une certaine frustration parce qu'on pouvait pas mixer toutes les sonorités qu'on voulait.
Et y a un jour, Karl, il me fait, ouais, moi, j'ai envie de montrer un truc trans, ça s'appelait La Darude. Donc du coup, moi, j'entends le nom, je me tape une méga barre, je me dis, bah ouais, de ouf. Mais en fait, on est en 2018. À ce moment-là, la trans à Paris, c'est de la musique de punk à chien. Genre, personne ne veut entendre de la trans. Quand
ouais,
tu dis trans, dans leur tête,
très mauvaise image,
ils pensent à la psy trans et ils pensent aux fruits partout. Les gens, ils traînent dans la boue. Ils pensent aux mecs qui rentrent dans le métro.
Les bolasses, tu vois. Les bolasses. Canal 286, tu vois.
C'est ça, mais trop dégueulasse, tu vois. Genre, les afters les plus dégueulasses de la terre, tu vois. Donc du coup, on s'est dit, bah vas-y, on va taffer le truc pendant quelques mois et on va voir. Et la révélation, elle arrive quand on part aux Pays-Bas en été 2018. Où là on écoute, on arrive dans une free party où il y avait de la trance dans la grosse salle et de l'eurodance dans la salle d'à côté, un karaoké quoi. Donc du coup là on écoute ça, on se dit mais c'est ça. Mais c'est ça, sachant qu'en plus à ce moment-là, nous avant de partir en soirée techno, on mettait beaucoup d'eurodance en fait dans nos apéros. Donc du coup on s'est dit mais pourquoi on n'y a pas pensé avant, en fait ça colle de ouf quoi. Et en fait, on est rentré de ce voyage-là et on a envoyé notre demande à la Java à l'époque et ils ont kiffé le projet. Donc voilà, on a balancé le projet en novembre 2018.
Le projet aussi, c'était quand même de redorer l'image de ces genres musicaux. Donc on s'est dit, pourquoi pas donner une image un peu plus pop et choisir aussi le style de trance, parce qu'il y a plusieurs styles de trance et que c'est pas limité à la psytrance ou à la hands up, enfin, voilà. Donc du coup on a pris des références quand même qui font écho à notre enfance et à l'imaginaire qu'on peut se donner en fait des années 2000. Donc on a commencé par Love Story avec des icônes qui parlent et qui incarnent un peu la fête de manière libre, de manière inclusive et pop.
Ouais, voilà. La première soirée, c'était sous l'égide de Love Story de Loana.
Exactement, c'est ça.
Exactement.
Et en plus, le truc, le fun fact, c'est qu'aujourd'hui, le public s'appelle les Lofters. En fait, le truc, c'est quoi ? C'est que la Java me dit, balance l'événement à 18h. Et je suis là en mode, j'ai pas de bio, je sais pas ce que je vais dire. En fait, je réfléchissais trop. Et là, je regarde l'image de Loana, mais genre pendant 2 minutes, et je me dis,
bah, les Lofters, quoi.
Salut les Lofters. Et c'est parti comme ça, ouais. Tu vois. Tout ce qui fonctionne avec la Darude, ça a été les idées les plus simples pour
ouais,
moi.
C'est en assez fait, instinctif.
Quand on y pensait, on rigolait, en fait. On se dit, mais let's go, quoi. Let's go.
Une fois cette porte franchie, pour les candidats, c'est le point de non-retour. Dès cet instant, ils vont découvrir l'univers qu'ils occuperont pendant 70 jours.
Et bien voilà, nous sommes dans le jardin du loft. C'est par la porte qui se trouve derrière moi que les candidats vont entrer. Lorsqu'ils seront ici, ils seront complètement coupés du monde, ce qui veut dire pas de télévision, pas de radio, pas de téléphone, pas de journaux, absolument aucun contact avec l'extérieur.
Au début, les gens pensaient que c'était une vraie
c'était
blague.
Une blague, ouais, ouais.
Parce qu'on a eu un attending de dingue, quoi. Genre 2000 personnes.
Ah oui, genre sur Facebook.
Totalement. Ils se disaient, putain, c'est faux. Putain, c'est un mème déjà. Là, Darude Sandstorm, c'est un mème sur Internet. Et vous faites une soirée Darude avec l'image de Loana de Love Story. C'est quand même un peu perché, quoi.
Et là, on se retrouve avec 200 personnes.
Et là, on
boîte.
Se retrouve avec 200 personnes.
Ah ouais, tout le monde pensait que c'était une vanne et personne n'est venu. Enfin...
Mais totalement, totalement.
Et après, bah, le fait de voir les événements continuellement.
Et avoir des réseaux sociaux et montrer qu'au final, oui, c'est sérieux.
Ouais, ouais. Du coup, les gens, ouais, petit à petit, sont venus, ils ont accroché au délire.
Parlons un peu des genres musicaux, parce que tu disais aussi, l'objectif, c'était de redorer le blason de ces genres musicaux.
De démocratiser surtout.
Que ce sont la trance, l'eurodance. Mmh. Alors, déjà un peu pour donner quelques bases de définition, c'est quoi l'eurodance ?
Moi, je le définis par des musiques connues. C'est-à-dire, plutôt que de faire une longue phrase, je me dis, bah, est-ce que tu connais Aqua Barbie Girl ? Voilà, hop, c'est de l'eurodance.
Voilà, allez, c'est de la dance.
T'as connu les To Be Free ?
Ouais.
Voilà, c'est de l'eurodance. Voilà,
c'est de la dance avec un kick techno et souvent des vocalises qui parlent de la vie de tous les jours, la fête, l'amour, l'amitié. Et c'est souvent chanté un peu de manière un peu niaise, un peu kitsch, mais c'est aussi ce désir aussi de faire la fête de manière peut-être.
C'est de la musique de fête.
C'est de la musique de fête. Il n'y a pas forcément de politique, mais surtout des sujets qui parlent à tout le monde.
Et c'est de la musique de fête commerciale.
Commerciale, ouais.
Exactement. Ouais, ouais, ouais.
Et donc l'âge d'or, c'est quoi ? C'est les années 2000, hein, des 90, 2000.
Ça dépend des pays. C'est-à-dire qu'en France, l'eurodance, l'âge d'or, c'est les années 90 avec des trucs de fou malade, quoi. Des concerts de ouf avec toutes les stars. Comment ça s'appelle déjà ce truc-là ?
Les Dance Machine.
Fun Radio et M6 présentent Dance Machine, le coffret. Triplez votre plaisir avec plus de 3 heures de musique. Dance Machine, le coffret. Pour tout écouter, tout gagner, 36, 68, 11, 20, 2,19€ la minute.
Dance Machine, ah oui, Dance voilà, Machine. C'est avec les Dance Machine. Ouais, avec les tous Dance les groupes qui arrivent, t'as To Be Free, t'as
ouais,
WhatsApp,
c'est 80, 93.
Ouais, fin des années 90.
93.
Ouais, surtout fin des années 90, c'est To Be Free qui fait vraiment exploser le truc de l'Eurodance en France. C'est un truc de malade, c'était une industrie de fou. Donc ouais, ça c'est en France. Après, dans les autres pays, ça continue. Enfin, tu regardes aux Pays-Bas, en Allemagne. Et en plus, l'Eurodance s'est muté dans la trance. Donc du coup, il n'y avait plus trop de barrières. Tout simplement, les méthodes de production évoluaient, quoi. Du coup, ça a eu une autre vie, par exemple, même en Belgique, où t'as des superstars qui ont évolué dans les années 2000. Je pense à Silver, par exemple, qu'on ne connaît pas en France.
Mais alors ça, comment vous l'expliquez ? J'ai l'impression qu'effectivement, c'est un genre qui est resté hyper populaire. Pays-Bas, Belgique, Allemagne. En France, pas du tout. C'est quoi le problème ? On est snob ?
C'est arrivé au même moment que la French Touch.
Filter House.
Ouais, la house filtrée, ouais. On a appelé French Touch.
Exactement, ouais. Donc avec des icônes, des DJ iconiques. Donc forcément, en France, on aime bien garder cette espèce d'identité. Voilà, ça c'est la musique à la française, c'est comme ça.
Bah, surtout, ouais, on a été très chauvin d'un côté par rapport à ça, parce que bah, du coup, bah, t'as toutes les icônes qui arrivent à ce moment-là. Dans les années 2000, t'as les David Guetta, Martin Solveig,
Bob Sinclair,
t'as les Daft Punk qui explosent. Et t'as aussi un truc tout simple, c'est-à-dire que c'est les radios qui lead encore l'industrie musicale à ce moment-là, et que ça te demande d'avoir un quota de paroles en français. Et c'est-à-dire que là, bah, tout ce qui est Eurodance, Eurotrance et tout ça, bah, ils parlaient tout le temps en anglais.
Du coup, ça a dégradé l'image de cette musique-là vers hors des métropoles. Donc c'était plus en campagne, les musiques de village.
Pour les balles.
Dans les balles ou dans les fêtes foraines. Donc du coup, ça s'est vraiment limité à ces lieux-là. On s'est dit, ah putain, c'est kéké.
Mais en fait, il y a aussi un truc du coup vachement social, en fait, de jugement social.
Totalement,
c'est
ouais.
C'est une musique qui est populaire et commercial, on l'a dit, et du coup il y a un truc comme je disais de snobisme, de dire ouais mais du coup en fait c'est de la merde, si c'est populaire c'est que c'est de la merde.
Oui, mais il y a eu par exemple un David Guetta bashing de ouf pendant les années 2000, sauf que David Guetta est toujours resté au top.
Et alors vous, qu'est-ce qui vous a plu dans l'eurodance, dans la trance, pourquoi vous avez voulu les mettre en avant dans la Darude?
D'abord au début c'était plus pour le délire. vraiment, très honnêtement.
Donc c'était une blague à la base.
Bah c'était plus
un peu second degré.
Toujours du second degré, mais c'est plus bah on a notre taf à côté, on fait ses soirées pour le délire et puis on verra quoi.
Mais du coup dans cette optique de faire ça pour le délire, pour se marrer, qu'est-ce qui vous faisait délirer en fait? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher avec cette musique-là qui avait de spécifique et qui faisait que c'était un kiff de faire ça quoi?
La bonne humeur.
La bonne humeur. Ouais. C'est plus facile non seulement de rencontrer des gens très cool lorsque tu mets des musiques de assez fun et cool.
Ça c'est central dans l'esprit de la Daru, de la positivité, la bonne humeur.
Maintenant, oui, tu le vois quand tu mets des musiques d'Eurodance, enfin même les premières soirées qu'on faisait au début, le public qui arrivait, on le voyait, ils avaient déjà le smile parce qu'ils savaient que ça allait être fun. Juste le fait d'entendre des musiques d'Eurodance quoi. Donc de passer du Crazy Frog comme de passer du Daddy DJ, et en fait ils connaissaient les paroles quoi. Daddy DJ, please take me to the party and let me
dance alone until the lights are on. Et surtout que c'est une musique qui est transgénérationnelle. Donc c'est-à-dire que bah, je peux rencontrer une personne qui a 40 ans et avoir les mêmes références musicales et se retrouver sur le même lieu et se dire ah, putain en fait on chante en même temps et les mêmes paroles.
Parce
putain,
que c'est des souvenirs en fait.
C'est des souvenirs ouais, qui rappellent surtout l'enfance et des moments de joie. Ouais.
Et aussi l'Eurodance ça nous a permis aussi de connecter le public à la trance, l'art trance et le hands up. En fait c'était des genres qu'ils connaissaient moins. Donc nous on mettait tous ces genres de musique autour de références Eurodance. Donc ça fait que par les Darude, t'as ce truc un petit peu mécanique dans le DJ set où on va se dire pendant trois sons, je pars dans des trucs assez puristes et après bim je vais te remettre un ou deux sons où tu vas pouvoir chanter et après ça repart quoi. Donc ouais, ça nous permet d'avoir.
Et après t'as même des remixes de musique très connue, version un peu plus hardcore. Et du coup les gens apprécient, se disent ah ouais en fait on est capable de faire ça.
Un petit remix de Mylène Farmer par exemple.
Bah voilà.
Oui ça marchait bien,
ça marche bien.
Ouais. Depuis la troisième Daru de le Désenchanté, on l'enchaîne, c'était en 2019 déjà.
C'est important ça dans la fête d'avoir des références communes?
Bah oui, parce que le public c'est le cœur de la soirée, c'est grâce à eux qu'on vit, c'est eux qui vont mettre l'ambiance potentiellement, c'est essentiel en fait. Il faut connecter, sinon t'es en décalage et ça marche pas tes soirées, tout
c'est
simplement.
Ça. Et c'est vrai que là à Paris il y avait ce truc là, un peu de snobisme dans la fête alternative, de se dire voilà je cale ces DJ là pour les puristes, sauf que en fait les puristes que tu vas cibler ils seront même pas forcément à Paris, ils seront peut-être dans le monde entier et du coup bah toi t'auras fait ta soirée très sympa avec tous tes DJ pointus mais les gens ils sont pas trop mécontents.
Ouais, est-ce que tu parles à ton public?
Genre, ouais enfin t'as fait un line-up de fou malade, ta boîte a fait 1000 personnes mais en fait t'as que 200 personnes qui sont intéressées, donc
il faut s'intéresser au public et pas forcément être égoïste quoi.
C'est quoi l'ambiance du coup dans une Darude si vous deviez décrire une soirée à quelqu'un qui est jamais venu?
Soirée kitsch et déjantée, autour des musiques fun, électroniques, allant de l'Eurodance, la trance, la hardcore. Et c'est très coloré, inclusif et hyper bienveillant.
Coloré parce que ça compte aussi le vêtement.
Totalement, ça fait partie de l'atmosphère de la soirée. Enfin, on a pris le contre-pied avec toutes ces soirées techno où il fallait s'habiller en all black.
La Darude, c'est un peu l'anti-Berlin, l'anti-tendance techno-berlinoise qu'il y avait à Paris à partir des années 2010.
Ouais, carrément. Nous, on adore Berlin, mais voilà, le truc, c'est qu'on a construit quand même la soirée en contre-pied à Berlin, quoi.
Le côté sérieux, un peu aussi.
C'est ça.
C'est totalement ça.
C'est ça.
On n'a pas parlé du nom Darude, quand même, qui est une référence. Mm-hmm. Le DJ finlandais qui a fait notamment le gros tube Sandstorm. Vous l'avez tout de suite trouvé ce nom?
Bah moi j'étais juste parti du constat que bah déjà le clip Sandstorm c'était un clip qui était assez kitsch, assez drôle avec les lunettes de vitesse et surtout que c'est une musique qu'on n'arrivait pas à l'époque à décrire. On se disait ok c'est de la musique, c'est de la techno. Mais c'est en même temps c'est un peu dance, mais en même temps c'est un peu kitschy. Du coup, dans notre démarche de créer aussi la Darude, c'est démocratiser et montrer qu'est-ce que c'est la trance, qu'est-ce que c'est l'eurotrance. Et c'est un peu un peu ce taboulé de références que j'ai trouvé ça cool, et au final ça fait beaucoup sens par rapport à ce qu'on fait maintenant.
Jouer des gros tubes d'Eurodance, c'est un guilty pleasure, c'est un plaisir coupable, ou c'est juste vraiment un plaisir pur?
On peut dire les deux au final, non?
C'est toujours un plaisir coupable pour
c'est
moi.
C'est toujours un plaisir coupable.
Dans le sens où plus on avance dans la Darude, plus on trouve toujours le remix. On se dit, celui-là, j'ai bien envie de le passer.
C'est ça.
Et du coup, bah, tu sais, t'es en train de balancer ton set, t'es en train de balancer de la grosse art trans, et là, tu te dis, allez hop, je casse l'ambiance, je balance un remix de Naruto en Eurodance, y'a quoi? Et du coup, le public, il suit, tu vois. C'est ça qui est marrant.
Bah, c'est ça, c'est toujours des références à l'enfance au final. Hein. Donc, c'est la pop culture, c'est les animés, c'est plein de choses en fait.
Donc, en fait, il y a un truc très enfantin dans la fête, dans votre conception de la fête.
Ouais, faut garder son enfant.
On va dire innocence.
C'est insouciance, ouais. Voilà,
insouciance, ouais. Insouciance, je pense que c'est mieux que l'innocence.
Ça, c'est intéressant, cette question de l'insouciance, parce qu'on est à une période où il y a peu d'insouciance quand même, avec que ce soit le contexte géopolitique, exactement, climatique, ouais, etc. Vous pensez que c'est une des choses qui explique le succès de la Darude?
Oui. Pourquoi? Parce que ça a vraiment explosé juste après le déconfinement. Après le déconfinement, il y a eu un basculement où la première soirée qu'on a balancée, on a vu que les préventes sont parties en 5 minutes. On s'est dit, ouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'était quand même un gros club, c'était le Cabaret Sauvage. Donc on se dit, attends, c'est peut-être le fait qu'on sort du déconfinement. Donc voilà, sauf qu'à côté de ça, on regardait aussi d'autres soirées qui se passaient. On se disait, mais les préventes ne partent pas aussi vite. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer autour de notre projet. Après, on en balance une deuxième, une troisième, on voit que ça part toujours aussi vite.
Ouais, c'était aussi une offre quand même unique. Hein. On était peut-être les seuls en France ou à Paris vraiment à prendre au sérieux ces genres musicaux et à porter cette touche positive et très kitsch qui parle au final aux tuffers, aux fans de mode des années 2000.
Et surtout aux gens qui sortent,
et aussi,
qui sortent
aussi pas. Aussi aux gens qui ne sortent pas.
Il y a des gens qui ouais, ne sortent pas du tout à Paris et qui sortent que pour les Darude. J'ai pas envie d'aller à ces soirées-là qui vendent des line-up, je connais personne. Alors que vous, votre soirée avant une ambiance, un délire. Donc du coup, je m'y retrouve plus.
Donc c'est accessible.
C'est accessible.
Exactement, ouais.
Ouais, il y a quelque chose de l'époque en fait, où ça apporte comme un remède à l'anxiété de l'époque.
Totalement.
Ouais, c'est vrai.
Totalement. On arrive au bon moment. Enfin, c'était une question de timing, quoi. C'est...
Puis ça célèbre aussi peut-être une époque où on était plus insouciant, les années 90-2000, comme un âge d'or qu'on voit comme un âge d'or, en tout cas de maintenant.
Totalement. Oui, totalement.
On l'a vécu, on sait que les années 2000. Enfin, voilà, quoi. Enfin, il y a eu un long moment où il a fallu réassumer ces années, quoi.
C'est vrai que la musique était devenue plus politique. Après, peut-être le 11 septembre, on va dire. Les Américains sont quand même une forte influence sur la musique mondiale. Donc, forcément, tu passes de cette période hyper fun, hyper édulcorée au début des années 2000 avec la contestation, les groupes un peu plus radicaux et une autre vision de la fête.
Mais... Ouais, je dirais qu'il y avait plus d'entertainment, c'était vraiment la décennie de l'entertainment, les années 2000.
Moi je dirais les années 2000, c'est un peu, c'est un mélange, c'est l'extravagance des années 80, genre avec les looks, les coupes de cheveux un peu farfelues, ouais, je pense que c'est le bon terme. Donc c'est ça, l'extravagance des années 80 avec la vision qu'on avait de l'époque des années 2000, c'est-à-dire voilà, l'avenir, le côté un peu métallique, très space.
Du coup, il y a de la nostalgie dans la Darude.
Oui, la Darude, c'est vraiment de la nostalgie, c'est-à-dire que enfin tu as ce truc là où enfin je pense que tu l'as vécu quand tu as 20 ans, tu te dis à chaque fois "Ouais, il y a 20 ans, c'était trop bien."
C'était trop bien.
Mais t'as pas connu en fait. T'as pas connu, t'as vu que les films, t'as vu les clips. Donc voilà, t'as ce truc là qui fait que la Darude ça marche parce que notre public est plutôt jeune et a envie de vivre une époque qu'ils ont pas vécue.
Et tout à l'heure on parlait rapidement de l'ambiance au-delà de la musique, le vêtement, parce que bah, la Darude c'est pas que de la musique, c'est aussi revenir dans les années 2000 avec les tailles basses, les buffalo, les lunettes de vitesse qui sont un peu votre signature. Pourquoi c'est aussi important le vêtement pour vous et dans vos soirées?
Signe d'identification, hein.
C'est bien d'habiller ces événements. La Darude, c'est un projet qui refait venir les années 2000, donc autant le faire le truc à fond, quoi. Et les géris de base, c'était Loana qui avait tout un outfit années 2000, donc autant y aller à fond et dire à notre public de s'habiller bien en conséquence. Sachant que bah, à la base, même pour rigoler dans les premières Darude, on faisait des starter packs à chaque fois. Et après, on a vu que le public suivait. D'abord, au début, c'était très drôle, on le faisait comme ça. Et après, quand on a vu que le public suivait, que ça donnait quelque chose, on s'est dit, faut le garder. Mais après, oui, voilà, le coup des lunettes de vitesse, ça arrivait assez vite, genre au bout d'un an. En fait, c'est tout simple. Enfin, c'est Karl qui me fait, bah, j'ai envie que le public porte des lunettes de vitesse. Et je lui fais comment il me fait, je sais pas, je fais, bah, on va en acheter.
Ouais,
donc,
ouais.
Du coup, on a commencé à en distribuer. Mais bon,
après, c'est comme devenir un élément qui est distinctif de la Darude.
Ouais, ouais.
Et au final, de la culture club des années 2090.
C'est aussi le signe que la fête, bah, c'est pas juste la musique, c'est un tout.
C'est un tout, ouais, c'est un package. Ouais.
Oui, c'est ça. Et en plus, après, ça te. Le fait que tout le monde soit sapé en mode années 2000 et tout. Écoute de la musique de cette époque-là, bah, ça te fait rentrer dans un univers.
C'est ça aussi, faire la fête.
C'est ça, exactement. Justement, ça a rendu les liens solides entre notre communauté et nous. C'est hyper important, ouais.
Ça, c'est important, ouais, ça, dans une soirée récurrente, l'esprit communautaire.
Totalement. Parce que tu. Déjà, un, tu retrouves le même public, un public que t'éduques. Et puis deux, cette communauté, forcément, elle va grandir. Donc t'as déjà un public qui est là de base et qui va éduquer les personnes qui ramènent à la Darude. Il va dire, la Darude, c'était trop bien, c'était ce délire, c'était cette musique. Mais si tu viens, fais un effort sur, ouais, sur l'outfit, comporte-toi comme ça, sois d'accord avec ça et ses valeurs. Et tout.
Ça, c'est toujours la difficulté quand on fait une soirée qui commence un peu intimiste, en tout cas avec, avec vraiment une communauté, un noyau dur. Mmh. Et quand ça a du succès, forcément, le public s'élargit.
Oui.
Comment on fait pour conserver l'esprit, l'âme ?
Prévention, communication, réseaux sociaux.
Il y a aussi un autre point aussi. C'est-à-dire que si on voulait, on pourrait prendre des clubs beaucoup plus grands ou aller en warehouse. Et le truc, c'est qu'on préfère garder des capacités plus restreintes. Donc là aujourd'hui, les plus gros clubs qu'on va faire, ça va être à Paris, ça va être le Trabend, qu'est-ce qu'on raconte, la Machine, le Cabaret Sauvage. C'est les plus gros et on évite de dépasser cette capacité. Après, il pourrait avoir des événements assez spéciaux, on prendrait des clubs plus gros, mais c'est pas notre objectif parce que sinon l'esprit va vite se perdre.
Ça a évolué la Darude depuis 2018.
Totalement. Même en termes de musique, c'est-à-dire que c'est le BPM est devenu plus rapide, il y a des genres de musique, enfin on s'est vraiment vachement élargi aussi. Aujourd'hui on joue plus d'Eurodance pur, on joue plus de la Pierrecore, du Hands Up, de la Machina, enfin voilà quoi, plusieurs genres qui tournent autour des sonorités, de l'ambiance de l'Eurodance, mais plus d'Eurodance pur parce que c'est trop lent.
C'est trop lent.
Et moi je trouve que tous les styles que vous citez, c'est encore la même chose, hein. C'est des, tu vois, quand tu parles de Machina, c'est des choses qui ont vachement été jugées, moquées.
C'est ça.
Je trouve que ce qui est fou, c'est que ça pose vachement la question de qu'est-ce que le bon ou le mauvais goût, en fait.
Tu as des tendances. Enfin, aujourd'hui, on peut parler beaucoup en termes d'influenceurs et d'influence ou de médias puissants qui vont te dire ça, c'est le bon goût. Et du coup, ça, c'est le mauvais goût. Tu vas te forger par rapport à tous ces médias, tous ces spécialistes, tous ces influenceurs qui vont t'éduquer sur ton goût et passer à des côtés de certaines choses que tu pourrais aimer. Donc nous, tout ce qu'on fait dans la Darude, c'était le mauvais goût. Même la mode des années 2000, même quand c'était à la mode, ça a toujours été considéré comme du mauvais goût. Et nous, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est juste, ben, on kiffe ce truc-là, on va le faire. Voilà. Donc, nous, c'était marrant parce que même là, maintenant, aujourd'hui, il y a pas mal de clubs à Paris qui ne voulaient pas nous entendre il y a quelques années, qui nous disaient « à vous, non ». Et aujourd'hui, tous les clubs de Paris veulent avoir au moins une Darude, quoi.
Parce que ce qui était considéré comme du mauvais goût, c'est devenu hype et donc maintenant, maintenant c'est cool.
C'est ça, en fait, suffit juste que tu aies une communauté qui réponde toujours présent et là, du coup, les spécialistes se disent « Ah, bah, c'est peut-être moi qui suis has-been, donc du coup, je vais me mettre à la page. »
Et c'est une nouvelle scène aussi. Hein.
Bah, c'est une nouvelle scène, justement. Vous avez lancé il y a quelques semaines votre label, mm-hmm. Techno Kawaii. Mm-hmm. C'est la continuité logique des soirées.
Ça te permet en fait d'écouter la musique que tu peux trouver en club, à la Darude, bah, chez toi. Voilà, ça peut être en apéro.
Il y a ça, et après il y a aussi le fait de se dire il y a des genres de musique qu'on ne va pas faire forcément à la Darude, qui vont être beaucoup plus pop, et qu'on aimerait toucher, parce que ça correspond aussi à l'identité, et ça peut être, en fait, ça peut être développé seulement sous l'égide d'un label. Et justement, là je pense par exemple à l'hyperpop qui a le vent en poupe, et nous c'est vrai qu'avec Techno Kawaii, on est plus basé sur de l'hyperpop, taper plus large. en se disant qu'on va aller toucher un public plus jeune et les sensibiliser, les familiariser avec certaines sonorités.
Ouais, démocratiser.
Comme ça, quand ils vont arriver à la Darude, ils se diront, j'ai déjà entendu ça qu'avant.
Et ça permet aussi de pérenniser le projet de la Darude. Ça reste une soirée, c'est peut-être tous les mois, mais on sait jamais ce qui va se passer.
Oui, oui.
Ce qui va se passer. Donc le fait d'avoir un label, ça permet de pérenniser le style musical et se dire, waouh, ok.
Qu'est-ce qui relie au fond une soirée de la Darude, une soirée techno-puriste berlinoise vraiment puriste, une soirée French Touch 2.0 au Social Club, une teuf évangéliste à l'église à Saint-Denis. Est-ce qu'il y a quelque chose qui relie tout ça dans le fond?
Ouais, il y a nous. Mais au-delà de ça, je pense que chaque soirée a créé sa communauté.
C'est la communauté.
Enfin, c'est-à-dire que par exemple à Berlin, même si c'est dur, enfin une soirée berlinoise pure, t'as eu des soirées à Paris qu'ils avaient ce truc-là et qu'ils avaient une communauté qui était cool. Moi, je pense à Berlin-on-Paris, le public était vachement cool. Donc c'est le fait de créer une communauté.
Il y a un sujet dont on parle pas généralement, qui est un peu tabou quand on parle de teuf et de monde de la nuit, c'est l'alcool, c'est la drogue, alors que ça fait partie en fait de l'expérience de la teuf. Vous, c'est quoi votre rapport à ça?
Nous, de base, enfin carrément, on a appris à faire la fête sans se droguer. C'est-à-dire que, enfin, on buvait beaucoup. mais on prenait pas de drogue dure et tout. Ça, de notre côté, enfin, on a pas mal de potes qui en prennent et on se dit, tant mieux, tu kiffes avec, il y a pas de souci. On n'a pas vraiment de souci par rapport
tant
à ça.
Tant que tu gardes le contrôle.
Il faut que tu gardes le contrôle.
Fait de la prévention. Tu peux faire la fête comme tu veux, mais juste garde le contrôle et surtout. N'empêche pas les autres de faire la fête aussi.
Après, il y a ce truc-là où si tu parles dans une économie de club, surtout à Paris, je me rappelle, vers 2015 par là, la drogue, ça gangrénait vraiment l'alcool. C'est-à-dire que les gens ne buvaient pas parce qu'ils prenaient beaucoup de MD, beaucoup de quai et tout.
Mais c'est l'influence de Berlin aussi. Hein.
Bien sûr, mais l'influence de Berlin, l'influence de Londres. Enfin, là, maintenant, c'est beaucoup la coke maintenant. Et on a toujours l'influence un peu de partout, quoi. Mais après, en soi, oui, nous, c'est plus en mode... tu consommes, il n'y a pas de souci, mais fais attention à ta consommation.
Et vous, c'était plutôt la tease, du coup.
L'escale.
L'ivresse, ça fait partie de la fête aussi.
Exactement.
Oui, bien sûr.
Ouais. Mais là aussi, pareil. Je me rappelle qu'il y a un moment où on consommait tellement d'alcool. En plus, on partait dans un bar qui s'appelle l'Escale dans le 18e où ils te servent des cocktails qui font la taille d'une pinte. Et ça coûtait 5 euros à l'époque. Et je me rappelle qu'on buvait tellement qu'à un moment, on buvait 3 verres par jour et on était là, ouais, je sens plus rien. Donc faut savoir consommer avec modération, si tu consommes avec modération, tu t'apprécies plus les choses. Et en fait, quand tu commences à consommer à l'excès, ton cerveau va s'habituer, tu vas toujours en prendre plus, mais tu vas moins kiffer ce qui se passe. Et en plus, il y avait ce moment-là où en fait on buvait, on attendait juste les faits, et après on partait en soirée, on se disait, je suis pas bourré, ouais, c'est nul, je vais rentrer, je commence à bailler, on avait vraiment zappé ce truc-là.
Ouais, après, quand tu rentres dans le professionnalisme dans ce milieu-là, vaut mieux avoir les idées claires. Donc,
ouais, quand vous organisez les soirées, t'as des responsabilités. Quoi.
Ouais, maintenant on boit plus quand on organise. Enfin, on tourne au club maté.
Quand vous organisez, vous faites la fête dans vos fêtes, dans vos soirées?
Moi, j'aimerais bien. c'est technique. Il y a toujours des petits trucs et tout. La dernière, j'ai pas trop fait la fête pendant la soirée. Mais après, l'objectif, surtout, c'est de se dire, est-ce que le public kiffe? Si le public kiffe, t'es content. Voilà. Donc là, le public a kiffé, du coup, je suis content.
Vous préférez les before ou les after?
J'aime bien les before quand même, moi. Je suis vieux. Ça dépend avec qui tu es, ça dépend comment ta soirée s'est déroulée. Enfin, il y a tellement de paramètres.
Team before, moi. T'es dans l'enjaillement, tu sais que tu vas aller après.
T'es dans l'excitation,
dans un truc et tout. Donc du coup, t'es à fond, tu vois.
Et tu ne sais pas comment va finir. Quoi.
Alors que l'after, faut plutôt trouver un bon after. Le truc, c'est quoi? C'est que à Paris, enfin surtout en France, on n'a pas une super culture de l'after, quoi. Bon, et aussi, ça dépend aussi beaucoup des saisons. C'est-à-dire que là, actuellement, tu vas aller te terrer dans un appart. Si tu commences à consommer. Juste pour consommer, en fait ton after à la fin il va servir à rien, tu vois, et tu vas être là en mode pourquoi je fais ça. Après le lendemain tu vas être claqué, tu dois aller taffer, t'as la flemme, quoi. Donc ouais, non, je suis plus team before, mais quand il y a des bons afters, surtout printemps, été, tu peux passer des moments exceptionnels, surtout à Marseille, dans les calanques.
Qu'est-ce qui peut tuer la fête?
Personne dans le mauvais mood.
Ouais, des éléments qu'on ne maîtrise pas et qui niquent la soirée, quoi. Enfin, ça peut être la sono, une vieille sono, genre. Ouais, le ton est devenu tellement calme, tellement triste.
pour résumer, qu'est-ce que c'est pour vous au final que le sens de la fête, sa raison d'être profonde?
La libération. Non mais oui, c'est vraiment une façon de d'extérioriser, de se libérer, de montrer son vrai soi. Je pense que comme beaucoup de personnes qui sont dans la fête, enfin dans le milieu de la nuit et tout, la fête c'est le moment où ils se sentent le plus vivre.
C'est aussi un moment pour fédérer des personnes qui ne se côtoient pas dans la vie de tous les jours. Moi j'ai des copains qui sont de tout milieu et grâce à la musique, grâce à la fête, bah on a un point en commun, c'est hyper fédérateur.
Qu'est-ce qui fait que la fête elle permet d'être soi et d'être quelqu'un qu'on ne peut pas être le jour?
À cause des normes de la société. Enfin, je pense que t'es en fait dans la journée, t'es vachement engagé. Tu vois, t'as ton taf, t'as le métro boulot dodo, t'as ton patron qui est au-dessus de toi. Enfin voilà quoi. T'as trop d'engagement en fait, qui font que tu dois te comporter d'une certaine manière.
Tu es dépendant de quelque chose.
Dans la fête, c'est différent. Le seul truc dont tu peux être dépendant, c'est quand tu fais la fête avec ton groupe de potes.
Tu
vas être dépendant de ton groupe de potes. Tu vas être dépendant de ton groupe de potes. Et même des fois, ça peut niquer ta soirée à toi, parce que toi t'es en train de kiffer ta race. Et t'as ton groupe de potes qui est là en mode
ouais. Moi, Romain, on est assez indépendant. On aime bien faire la fête ensemble, mais parfois on aime bien avoir des moments.
Grave, ouais.
Où on est solo, on rencontre d'autres personnes, et c'est après à la fin on est là, ouais, t'as remis qui, waouh, trop bien, ouais.
Ouais.
Ouais, attends, ouais, j'arrive à cette soirée, ouais, j'ai rencontré telle personne, t'inquiète, tu vas quitter. Vas-y, rendez-vous à cette heure-ci, vas-y, ramène le club maté.
Ah ouais, même des fois, je me rappelle, on passait des soirées avec Karl où en mode, il passait une soirée dans un coin, je passais une soirée dans l'autre, et à 6h du matin, ouais, t'as fait quoi, ouais, j'étais avec machin, ouais, ouais, j'ai rencontré machin, vas-y, on se rejoint, ouais.
Le sens de la fête est un podcast de Nick La Radio, écrit et animé par Christophe Payet. Réalisation, Malo Williams.
Si vous deviez choisir qu'une seule track, le morceau ultime pour faire la fête, ce serait lequel?
Je dirais tout simplement Darude Sunstorm. Darude Sunstorm, tu sais que tu le mets, tu sais que ça part en couille. Est-ce que c'est mon morceau à moi? Pas forcément, mais celui-là, tu sais que tu le mets... T'entends à peine ça, la Darude, t'entends tout le monde, juste le... Tu vois tout le monde qui est là. Et dès que ça part.
Pito, alors un titre hollandais qui s'appelle. Un groupe hollandais.
Party Animals.
Qui s'appelle Party Animals. Et le titre s'appelle
We Like the Party.
Ouais, forcément. We Like the Party. Party Animals. Bien sûr.